C'est une question qui fait malgré tout débat. Pour les uns, il faut bien le dire, mettons tout de suite les choses en place, la création de l'État d'Israël, le retour des Juifs sur leur terre, maintenant nous en sommes pratiquement la majorité de la population juive mondiale qui se trouve être en Israël, on croit qu'à France ça sera le cas, c'est même un phénomène étonnant pour quoi qu'on pense, puisque c'est la première fois finalement depuis 2000 ans qu'un tel phénomène se produit, et sans doute quelque chose change-t-il sur l'interface pour l'humanité entre les peuples juifs et le reste des nations, avec cet événement que l'on voit sous nos yeux. Et certains voient donc ce retour comme des signes, comme un signe annonciateur de la venue du Messie. Et pour d'autres, au contraire, la survenue des temps messianiques ne va pas être le résultat d'un processus historique, j'allais dire immanent, mais au contraire, sera de l'ordre d'une déchirure de la temporalité, pour utiliser un terme un peu philosophique, c'est-à-dire que quelque chose se produira à l'extérieur même du réel et qui bouleversera la vision que nous aurons des choses. Et c'est ça qu'il faut considérer comme étant véritablement le principe de purement transcendant de cette 2008. Je ne vais pas plus loin parce qu'évidemment nos deux intervenants vont mieux expliquer que moi ces positions. En tout cas, ce débat nous permet de mettre malgré tout face à face, je crois que ce n'est pas si souvent le cas en Israël, même en Israël, face à face un représentant, on va dire, de la tradition sioniste, et puis un représentant du courant orthodoxe, je crois que le rapport ça perd dire authentique, mais bon, on s'expliquera là-dessus. Voilà, je vais demander à nos deux invités, pour commencer, dans un premier temps, on va dire 7, 8, 10 minutes maximum, de répondre à notre question. Comment le Messie viendra et qu'est-ce qu'on peut dire du rapport entre cette question et l'état de la société, du monde aujourd'hui, et de la situation d'Israël en particulier. Donc, Rav Ben Arouche, vous commencez pour nous faire un exposé, disons, court, une dizaine de minutes, après quoi le rachatine, et puis ensuite, on pourra passer aux échanges d'arguments. Merci beaucoup, je vous donne la parole.
Birchut Harav, avec tout mon respect pour le Rav Tadim, qui est un grand penseur et quelqu'un qui compte aujourd'hui Baruch Hashem. Et je voudrais même lui faire un compliment, je n'ai pas le droit de tout dire, mais j'ai trouvé en sa personne quelqu'un d'ouvert, qui écoute, qui sait entendre et qui sait ne pas voir les choses en noir et blanc, qui sait comprendre que le monde n'est pas manichéen, et qu'il y a dans toutes les parties quelque chose à dire. Je pense que je suis là pour apprendre. Je ne viens pas en tant qu'enseignant, je viens en tant qu'étudiant vis-à-vis du Rav. La création du monde nous dit Ravi Abraham Ibn Ezra que la création du monde ressemble à une naissance. L'ivrot, dit Rabbi Abraham Ibn Ezra, s'est découpé. Autrement dit, du ventre de l'infini béni soit-il, est née la vie, est né le monde dans lequel nous sommes. Je ne rentre pas dans toutes les considérations de nos kabbalistes, de simsum, de contraction, qui justement rappellent les contractions de la maman avant la naissance, mais il y a ici quelque chose de l'ordre de l'accouchement. Le problème, c'est que lorsque l'enfant, ici le monde, était encore dans le ventre de sa mère, il est nourri par la maman. Mais dès que ce bébé sort, immédiatement il est en danger, parce qu'il est découpé de sa maman, et pour que ce bébé continue à vivre, il y a ici un retour de la maman vers sa progéniture. Les sages nous disent que lorsque l'infini béni soit-il a accouché de ce monde, comme une bonne maman qui fait attention à son fils qui vient de naître, eh bien, elle est revenue, elle revient. Il s'agit donc ici du retour de l'infini vers le monde créé. Je parle ici d'une notion de retour qui, en hébreu, s'inscrit dans la notion de teshuva. Autrement dit, au risque de choquer, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait Teshuvah en premier. Qu'est-ce que c'est que cette Teshuvah? C'est son retour vers la vie. Sans ce retour vers la vie, le monde ne peut pas vivre, il est donc en danger de mort. Le retour se fait par le choix de l'infini à un degré, par un degré bien spécifique que l'infini béni soit-il a choisi, et nous avons ça dans la Torah, nous ne sortons pas des versets de la Torah. Tout doit être corroboré par la Torah. Si je dis quelque chose, si j'avance quelque chose, il faut que ce soit inscrit quelque part dans le texte du Tanakh. Ce que je veux dire par là, c'est que cette teshuvah de l'infini vers le fini est inscrite dans l'ADN de la création, puisque la Gemara, dans le traité de Pesachim, à la page 54, nous dit « Teshuvah kadma la olam », que la teshuvah a précédé le monde. Pas dans la notion faute et réparation seulement, mais dans le sens du retour. Autrement dit, si la teshuvah a précédé à la création du monde, ça veut dire qu'il y a un projet, une projection divine de descendre, entre guillemets, ici descendre c'est se révéler, il n'y a pas de déplacement, Dieu n'est pas limité, donc il n'est pas là-bas et il vient ici, c'est tout simplement un dévoilement de l'infini dans le fini. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas une religion. Le judaïsme est en réalité le retour de l'infini vers le monde créé par une espèce de forme de vie qui s'appelle Israël, dont Rabbi Akiva en a fait une Mishnah, une Braïta, Chaya. Chaya, c'est une forme de vie, Omedet Be'em Tarakia, qui se trouve au centre même de la pensée divine par laquelle l'infini béni soit-il va redescendre, va réintégrer le monde qu'il a lui-même choisi. Autrement dit, le retour de l'infini vers le fini, donc le dévoilement de l'infini vers le fini, des valeurs de l'infini vers le fini, de l'éthique de l'infini vers le fini, se passe par Israël. Et pas par hasard que c'est Israël qui reçoit, qui est détenteur des clés de cette parole, de ce verbe divin et de cette pensée divine, dont le don de la Torah, dont la sortie d'Égypte qui est inscrite. Pourquoi Israël et pas les autres? Quelle est la différence? Donc il y a ici une création, et lorsqu'on parle d'un choix, ce choix n'a pas été fait après la création, il a été fait avant la création. C'est-à-dire que le choix de l'infini de créer une forme de vie qui s'appellera Israël, c'est là-bas le choix. C'est pas que Dieu a placé toutes les nations du monde et a choisi une nation parmi d'autres. Il a choisi de nous créer avec la capacité, en hébreu, Ségoula, d'être porteur du message divin dans ce monde. Le seul problème, et ça c'est le messianisme, lorsque ce message arrivera au monde, eh bien en réalité, le Mashiach est une antenne porteuse de ce message. La radio est prête, les transistors sont prêts, et il faut une antenne pour capter l'émission. D'ailleurs, le mot Mashiach en hébreu, c'est celui qui arrive à faire parler. Milashon Sicha, Mashiach. C'est celui qui arrive à entendre et à faire verbaliser, j'allais dire, le verbe divin d'une manière cohérente dans le monde en bas. Le seul problème, c'est que pour descendre, pour se dévoiler, et là je terminerai cette première phase, Dieu a lui-même créé 4 écrans. Pourquoi 4? Tout simplement parce qu'il y a 4 lettres de ce nom secret qui, en soi, est un cours interminable. Le Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, celui qu'on voit et qu'on n'a pas le droit encore de dire, ça aussi c'est une question, on voit quelque chose et on dit autre chose, eh bien, ces 4 lettres, en réalité, passent par 4 écrans qui vont tenter, c'est un jeu, de, pas d'annuler parce que c'est impossible, Dieu ne rate pas sa création, mais de freiner, de faire écran par rapport à cette lumière. Alors, ces quatre éléments apparaissent immédiatement dès le début de la Torah. Veha aretz hayta tohu vavohu choshech et tehom. Ces quatre notions qu'il faut développer, qui ressemblent, qui correspondent aux quatre exils de la totalité de l'histoire du monde, dont Israël fait en réalité fonction de révélateur, de conducteur, de molir, de magid, eh bien, il faut traverser ces quatre écrans, il faut battre, gagner ces quatre écrans, pour que ne pas que ces écrans soient des écrans qui ferment la lumière divine, mais des écrans révélateurs. Par exemple, une petite référence, on rentre à Pourim maintenant. Eh bien, pour rentrer à Pourim, si je ne comprends pas l'ennemi de Pourim, l'antithèse de Pourim, eh bien, je ne profiterai pas de Pourim dans sa pleine essence. Ça veut dire qu'il y a ici une ségoula. Et la ségoula, l'anti-ségoula de Pourim, c'est Amalek. Si je ne connais pas mon ennemi, je ne peux pas vivre Pourim à son plein régime. Donc il va falloir combattre Amalek. Pour combattre Amalek, il faut étudier Amalek. Donc Amalek fait partie d'un de ces écrans, qui est Edom. Tant que je ne comprends pas ce secret, eh bien je ne peux pas profiter de cette lumière. Donc, cette traversée de quatre couches qui sont appelées dans le langage de la Kabbalah des Klipot, Klipat Babel, Klipat Paras, Klipat Yavan et Klipat Edom avec l'intervention d'Ishmaël qui en réalité font tout le travail maintenant. Tout ceci pour révéler en fait une seule chose, le royaume de Dieu sur terre. Bien, le messianisme, c'est Malchut Hashem dans ce monde. Malchut Hashem, et là c'est très important, ça ne peut pas se faire en dehors de notre terre, puisque un roi d'Israël, c'est lui qui est porteur des messages du roi de l'infini, béni soit-il, David Amelech, l'exemple. Si un jour David Amelech sort de la terre d'Israël, il dit de lui-même, un jour dans ma vie j'ai fait de la Avodah Zarah, parce que j'ai quitté Israël. Or, si on regarde dans le texte, il n'a pas quitté Israël, il était à Kiryat Gat. Seulement, lorsque à Kiryat Gat, il n'y a pas un royaume, une souveraineté, un gouvernement juif, c'est considéré comme s'il était sorti d'Eretz Israël. Et il dit, « Ki gershune hayom, mihistafer benachalat Hashem, be'emor li lech avod Elohim acherim. » Moi, David Amelef, j'ai servi d'autres dieux, parce qu'un jour dans ma vie, j'étais à Kiryat Gat, où il n'y a pas de souveraineté Israël sur cet endroit. Incroyable. Donc tout ce système-là, c'est en réalité le royaume de Dieu dans le royaume des hommes. Il n'y a rien à voir. Dieu, vous ne le verrez jamais. Dieu s'habille en forme Israël pour se révéler dans ce monde. C'est nous les porteurs. Magid, Dvarav, le Yaakov, Hukav, Umishpatav, le Israël, Lo Asachen, le Cholgoy. Et la chose la plus importante, c'est qu'il passe par là. À tel point que nous disons quelque chose d'incroyable, Adonai Betzion Gadol. Sous-entendu qu'ailleurs, il y a une petite cesse. Comme si on rendait nain la valeur de l'infini, béni soit-il, lorsque c'est en dehors de Sion. Sion, c'est le secret le plus grand. Et nous demandons chaque jour, et là je termine, car ce n'est pas facile apparemment de voir ce retour de Dieu, on demande dans la Amida, avec les Chazarot, Vetechezena enenu beshuvcha l'Etzion berachamim. Écoutez bien, Akadosh Baruch Hu fasse que nous voyons lorsque tu reviens à Sion, car apparemment pas tout le monde le verra. Pas tout le monde est capable de voir ce retour, et je veux faire partie de ceux qui voient. Tout d'abord.
Merci. Merci beaucoup. Merci madame. À la fois présenter de façon générale nos conceptions et aussi d'avoir tenu des temps, les 10 minutes imparties. Donc, Jean-Marc Sabine, je vous laisse pour l'exercice, disons, analogue, pour présenter votre vision.
Alors, une fois qu'il ne marche pas, mais je ne parle pas beaucoup de monde, on peut peut-être parler de micro, non ? Oui, on
va peut-être parler de
micro. Je crois que c'est bon, vous voulez le micro ?
C'est mieux ? Bon, alors, c'est bien. Toujours. Micro et modeste.
D'accord, celui-là était mieux. Alors tout d'abord, Moi aussi, Rabbi Lamour, je le trouve formidable, il a bien explosé, je suis entièrement d'accord, donc il n'y a pas de débat. Donc tout va bien. Exactement, je pourrais signer sa contradiction, peut-être son avis, juste une petite remarque, on dit qu'il y a eu quand même Kibouch Katrine, il a conquis la Syrie. Donc, il est oui sorti effectivement d'Israël physiquement, mais en tout temps reste valable. Mais on dit que le Golan a une Kedusha de Shmita, par exemple, dans ses bras, c'est-à-dire d'Israël originaire, parce que David Abelère a conquis toute la Syrie, donc un jour on va se retrouver à Damas, parce qu'on récupérera l'héritage de David Abelère. Mais bien entendu, et aussi je trouve formidable qu'un Rav soit capable d'exprimer de façon artistique, en faisant de la peinture, des idées de Torah, des transcendances, des spiritualités, qui s'outramanquent un peu. Il y a un grand texte de Rabbi de Breslav qui dit que le règne, la grâce, la beauté, est passé malheureusement chez les Goïs.
La première Torah.
Oui, et que le Sechel, le règne, il faut le ramener en Israël. Je pense que, dommage, malheureusement, il y a trop de dichotomies, trop de barrières entre le monde de l'étude, le monde de la vie, le monde de l'art, et je pense qu'on va faire des ponts. Et que le fait de peindre ou bien de faire de la musique dans le monde de la Torah est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, et qui partie d'ailleurs d'un des signes messianiques et un des signes de la plénitude de la Torah, qui n'est pas simplement un retour physique à la terre d'Israël, mais qui est un retour de dimensions spirituelles à la Torah qui ont été, on va dire, voilées, pour ne pas dire plus, pendant la Galoute, pendant l'exil. Alors, pour revenir sur ce que dit Rabbi Laroche, effectivement, tout le problème du messianisme, va être le problème d'une dichotomie. Ça veut dire qu'il y a d'un côté le réel, il y a d'un côté la transcendance, on va dire la spiritualité, avant le monde, après le monde, et il va toujours y avoir des ambiguïtés sur comment pointer un moment messianique. Il y a d'abord, il faut savoir que le messianisme n'est pas simplement une date historique, c'est une dimension spirituel, c'est-à-dire qu'on peut individuellement vivre un temps messianique. Il y a une très belle histoire avec un rab, qui un jour était dans son bureau, dans son état de grâce, où il étudiait, on lui dit, le Messie est arrivé. Il est super content, il se lève, il ouvre la fenêtre, il voit l'espace, il voit l'air, il voit que c'est le même espace, un peu gris, un peu carré, un peu lourd. Il dit, le Messie n'est pas arrivé. Et il retourne sur son étudiant sa gloire. Et un des élèves demande à l'autre élève, comment se fait-il que le Messie est levé là-bas. Pourquoi il n'a pas vu que le Messie n'est pas arrivé dans le Bétamidrash? Et l'autre a souri et l'autre a compris. Au Bétamidrash, le Messie est là. C'est-à-dire qu'il y a une dimension messianique existentielle qui existe au niveau individuel. On peut vivre un temps messianique, simplement le temps messianique universel arrivera quand le Messie viendra. Mais alors, c'est quoi cette dimension messianique? Alors, je reprends la problématique, c'est que on va avoir toujours deux tendances qui, à mon avis, sont fausses. C'est qu'on va avoir une trop grande spiritualisation du messianisme. Ça veut dire que, quand un peu vous l'avez dit, que ça va être un changement radical. Et c'est vrai, il y a cette partie existe, c'est ce qu'il total. Une rupture absolue, une déchirure de la temporalité, une déchirure du tissu mondain pour faire apparaître le visage d'un autre monde que l'être absolument radicalement différent. Et donc, il n'y aurait pas des prémices messianiques dans l'histoire même. C'est une vue. Les Villas le pensaient vraiment. Il y a d'autres vues qui pensent que, déjà, dans le processus de l'histoire, apparaît déjà des mouvements, des forces spirituelles, et même des forces historiques, qui déjà permettent l'apparition future du Messie, ou même l'apparition présente d'une certaine messianité, si on peut dire, qui est déjà présente dans l'histoire. Et je pense que dès qu'on se reste sur ces deux catégories, on se trompe. Parce que pour toute vérité, c'est dans quelque chose de plus fin, un dépassement, un off-problem, comme on dit en allemand, un dépassement dialectique de ces deux positions, et qu'il faut voir les deux. Il faut effectivement aller en source dans les textes qu'on a fait le Rabbi Laroche. Et il y a deux textes fondamentaux pour comprendre cette problématique, pour essayer de l'approcher. Il y a un premier texte, qui est le Maral de Prague, qui pointe l'origine du mal, l'ontologie, l'origine ontologique du mal, dans le fait même qu'il est création. C'est assez incroyable. Il parle de ce passage, de ce verset de l'air, arrête avec pas trop roux, pour où, rocher à l'intérieur, les rois à l'oki, mais après, c'est un peu la marine, dit le marin, tout roux, va arrête. C'est la matricienne d'Égypte, la matricienne de toutes les civilisations, tout roux, c'est l'étonnement babylonien, beaucoup c'est la confusion. Rochef, c'est extraordinaire. Fénètre, c'est la grève. Ferme, parce qu'on n'en voit pas le bout. L'infime, l'abîme. Ferme, c'est l'Occident. Mais après tout ça, roi Elohim, l'esprit de Dieu plane sur les eaux. C'est quoi l'esprit de Dieu? C'est le Messie. Qui plane sur les pleurs et larmes du peuple juif. C'est quoi le Messie? Voilà, presque toute l'histoire de l'humanité qui est signifiée en un seul verset. Et le Maharal pose la question en disant, mais comment se fait-il que le mal, que les clipotes dont vous avez parlé, existe déjà à l'origine? Il n'y a pas encore de liberté, il n'y a pas encore d'humain, il n'y a pas encore de libre arbitre pour qu'il puisse y avoir du, qu'il puisse y avoir encore du mal. Quand je sais que ontologiquement, essentiellement, à l'origine même de l'origine même, il y a déjà du mal. En tel cas, une prophétie qui parle du mal. Et il dit, parce que le phénomène qui est autre chose que Dieu, c'est ça le mal. Définition encore vertigineuse du mal. El on nivado, la vérité absolue, c'est qu'il n'y a que Dieu. Et le fait qu'il y ait autre chose que Dieu, c'est déjà un problème. C'est déjà un scandale métaphysique. Là, vous savez, c'était le problème de grands philosophes comme Spinoza, qui s'est devenu monothéiste, qui est devenu panthéiste, dans la vidéo, il avait cette couchère, c'est une vraie couchère à la main, ici Dieu est tout, comment ça se fait qu'il y a autre chose que Dieu. Et s'il y a autre chose que Dieu, donc Dieu n'est pas les autres, donc il n'y a pas dans tous les yeux. Bon, je schématise énormément, mais c'était ça, son... et c'est la première fille, la Kabbala, la petite soupe, etc., etc. Et on n'a rien résolu en disant, parce qu'il y a quand même autre chose que Dieu. Vous voyez, c'est pas une question, parce que c'est... la question pose une sorte de même dimension sur la création du créateur. C'est comme si, comme si dans ma chambre, je rêve de la mer, cette réalité du rêve ne va pas mettre en danger la chambre dans laquelle je dors. Mais quand même, la question reste la question. Et donc, il y a une dimension dans le réel lui-même qui est sentie dans la création elle-même, quelque chose qui est de l'ordre de l'anti-révélation. Mais il y a aussi l'autre côté, bien entendu. Que tout, Dieu a quand même créé le monde. Dieu a créé le monde. Il a créé le monde pour qu'à l'intérieur même de cette réalité anti-divine, on va dire, ontologiquement bien sûr, s'opère une autre forme de révélation divine, peut-être supérieure à l'originelle lumière de l'infini dont vous avez parlé. Et là, il y a un deuxième grâce, pour vous comprendre cela, où Jacob voulait vous révéler, vous avez posé la question à Jacob Avinu, puisque Jacob Avinu veut révéler la fin du temps à tous ses enfants, donc à nos anciens, à nos grands-parents, à nous, aux 12 patriarches, et aux 12 fils de Jacob. Et quand il veut révéler le voici, tout de suite, ça se bloque. La Shrina, l'Israël, bon, frère. Et il dit, c'est pas normal, il avait comme tradition que si tout le peuple juif est ensemble, si on fait une même chaîne par doute, si on est tous ensemble, vraiment, alors le Messie vient tout de suite. Parce que l'unité d'Israël, c'est un conseil maranien extraordinaire, il dit que chez les Grecs, là, il y a la notion d'unité au ciel, et on essaie de la garder dans la réalité. Il dit que chez les Juifs, c'est Israël qui crée le concept d'unité. Ça fait partie à Israël dans le monde, il y a toute cette unité. Israël, c'est l'unité absolue, physique, réelle, qui crée la possibilité d'une unité conceptuelle. Et si nous étions tous unis, vraiment, ce qui n'est pas de la veille, mais si nous étions tous unis, vraiment, le Messie vient tout de suite. C'est que nous sommes le lieu de la révélation de l'unité. Alors il dit, mais si le Messie ne se révèle pas, il faut bien comprendre que l'autre miracle ne veut pas révéler une date. Il voulait révéler une expérience messianique, faire apparaître la lumière messianique dans la chambre avec ses enfants. Or, ça n'apparaît pas. Donc, il disait, un de vous n'est pas avec Dieu, un de vous a le cœur dans la Vodazara. Et là, tous les fils de Jacob disent en cœur, ensemble, Shema Israël, écoute Israël, Jacob s'appelle Israël, Hachem le Vina Shemechach. Ah, et là, il vous va enchaîner que votre enfant va être. Akane Midra, c'est bien, parce qu'elle a compris aussi, c'est ça. Alors on vient à Dra Kouchel et Dourtan, dit chez nous. La Kouchel est revenue. Donc on est tous ensemble et le Messie est pas là, c'est quoi? Alors quand on dit Vanouchan qui va pas la et quand on dit Amen et Chevé Rabat, les mêmes caranos qu'il faut avoir dans tout ce qu'on a haut, et dans le bar d'Aval, il y a plusieurs sources, il faut penser à trois choses. Il faut penser, un, qu'on est prêt à donner sa vie pour Dieu, deux, à la vie du Messie, trois, à l'élimination d'un Amalek. Il comprend, en d'autres termes, Jacob, on va faire vite, c'est un peu indigné, Jacob pensait qu'on pouvait faire venir le Messie contre nous, contre lui. Et les Juifs ont une fâcheuse tendance à croire qu'ils ont fait le monde. Entre nous, voilà, on parle dans les goy, on va faire venir le Messie.
Même s'il y a un rabbin qui n'en est pas capable de vaincre Amalek, de vaincre Amalek. Alors c'est quoi vaincre Amalek? C'est pour être obligé de traverser tous les exils, tous les empires, toutes les idéologies, et de développer un discours intellectuel qui va dépasser, démentir tous les mensonges. Et le Midrash nous dit la chose suivante, que quand Dieu a voulu donner la vérité au peuple juif, les anges ont dit à Dieu, pourquoi est-ce que tu méprises ton sceptre? Et Dieu a pris la vérité, il a jeté sur terre, il a dit, Emet et Eret Kisra. Emet et Eret Kisra. Si on regarde Emet au Pasuk, Emet et Eret Kisra.
On a Emet et Eret Kisra,
on peut dire comme ça, et on peut dire de l'autre côté. Emet et Eret Kisra,
de tous les côtés. C'est cubique.
Pourquoi? Parce que Dieu veut dire comme ça. La vérité au ciel magnifique. Mais elle n'est qu'elle-même. La vérité jetée sur terre, ça veut dire qu'elle soit elle est piétinée. Comme les graines qui se marrent, ça veut dire croître. C'est comme l'idée de semence. Que la vérité sur terre croît. Encore quand je jette des graines, c'est pas pour récolter le même nombre de graines, c'est pour récolter mille fois plus. On nous dit l'idée que la vérité, oui, il va être piétiné. Oui, il va pourrir sur terre. Oui, il va être terriblement humilié par la marche des hommes qui ont marché dessus. Mais cette confrontation au mal va multiplier la vérité. Parce que la vérité au ciel, elle ne dit que la vérité. La vérité sur terre qui se confronte au mensonge dit non seulement la vérité, mais dévoile, est obligé de développer un discours qui dénonce le mensonge, qui devient une même vérité. Et donc on a une multiplication de cette même vérité. Et donc c'est ça le problème islamique. On pourrait dire une formule presque mathématique. On a le réel, qui est l'écran à la vérité. On a la vérité, qui est la capacité de se sortir hors de lui-même. Elle n'est qu'elle-même. Le métier, c'est la connexion entre vérité et réalité. Quand quelqu'un vit une vérité, il vit un moment mécanique. Quand quelqu'un vit existentiellement une dimension de vérité éternelle, il vit un moment mécanique. Or, quand l'humanité entière sera en harmonie avec la vérité, le métier viendra. Alors ça veut dire que, je vis vraiment avec ça, ça veut dire qu'on va avoir tout le temps ce genre de problème. On va avoir deux yatserara très forts. Des fois chez la religieuse, des fois chez pas la religieuse, des fois chez la religieuse, deux yatserara, il travaille chez tout le monde, il est très fort. Il peut mettre des payeurs, il peut mettre qui passe au gosse, il peut mettre des qui fâche au monde, il peut mettre des qui passe comme du tout, il est très fort. Il va à un moment donné nous dire non, laissez la lumière là-haut, surtout ne vous mouillez pas, ne rentrez pas dans le réel. Ou bien vous dire, regarde, les ténèbres, le réel, c'est l'arrière-monde, c'est spiritualité, le réel, c'est le réel. Et les deux vont condamner, vont fermer la porte du machin. Donc le machin ne pourra pas dire qu'on pourra assumer ces deux réalités. Assumer la réalité de la vérité, et assumer la vérité de la réalité. Quand on passe à la dialectique, le métier, c'est ça la porte et le secret de la vie, ma chère.
Jusqu'à présent, on pouvait penser que pas grand-chose nous sépare sur le fond.
Non.
Sur le fond,
c'est toujours l'unité.
Voilà. On est venus ensemble, en plus.
Mais bon, j'ai essayé de jouer mon rôle quand même. Bernard, je vous pose la question directement, parce que c'est là où il faut en venir maintenant, je pense. C'est de savoir si ce qui se passe aujourd'hui en Israël peut être considéré comme le début de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire de ce dévoilement, de cette introduction de la réalité dans la réalité. Est-ce que oui ou non, on peut dire cela de ce qui se passe aujourd'hui en Israël? On peut poser la question directement.
Le Talmud de Jérusalem nous dit que l'avènement messianique n'est pas une date, mais un processus. Et il donne l'exemple du lever du jour. De la même manière que le soleil ne se lève pas d'un coup, et qu'il y a en réalité des phases, des étapes dans le passage de la nuit vers le jour, eh bien, la Géoula se fait de cette manière-là. Autrement dit, la Géoula, quand est-ce qu'elle a commencé? La rédemption, le messianisme, j'ai envie de dire depuis le moment de la création du monde. C'est-à-dire que depuis la création de ce manque, que le Rav Sadin vient d'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a une création de manque. Yotzer Or ou Boré Ra. C'est-à-dire qu'il y a une création d'un manque de lumière. Eh bien, le retour dont j'ai parlé tout à l'heure est en réalité un retour qui s'inscrit dans un processus qui a vraiment esprit vu le jour à la sortie d'Égypte. C'est pour ça que le Rav Kook dit qu'en réalité, la sortie d'Égypte et la rédemption totale, finale, il s'agit en réalité que d'une seule rédemption. C'est une seule Géoula dont l'ouvreur, c'est Moshe Rabbeinu, et celui qui terminera, ce sera Melech HaMashiach. C'est-à-dire qu'il y a ici... On est en plein. Si vous me demandez si le Mashiach est là, je vous dis oui. Parce qu'en réalité, à chaque instant, il y a une couche messianique de plus. Alors les gens sont déçus, Pessach dernier, je croyais que le Mashiach allait venir, il n'est pas venu. Il est venu. Il y a une couche en plus de messianisme qui s'approche. Ça, c'est une façon de voir. Dans la Kabbalah, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est qu'une royauté, on appelle ça Malchut, sans rentrer maintenant dans les détails, parce que ce sont des études assez poussées, ne peut pas se révéler tant que la royauté précédente est complètement annulée. Autrement dit, nous sommes dans une construction de binyan, de korban et de binyan meshuchlal. C'est-à-dire qu'il y a une étape, et tant que cette étape ne se détruit pas complètement, on ne peut pas édifier la phase prochaine sur les fondations de la phase précédente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, on assiste à une extinction totale de toutes les valeurs que nous avons construites. Dans le monde entier. Ça veut dire que toutes les valeurs sont obligées de passer par zéro. Comme en mathématiques, pour passer d'un plan à un autre, il faut que je passe par zéro. Eh bien aujourd'hui, il y a une mise en reset, une annulation. Je donne toujours cet exemple au niveau de Pessah. Pour sortir des Juifs, des Égyptes, il faut être comme la Massa. C'est-à-dire que tu t'aplatis, tu annules le degré d'avant, et une fois que tu es capable d'annuler le degré d'avant, tu peux en réalité voir quelque chose de neuf. Sinon tu seras toujours un peu moins vieux qu'hier, mais tu es toujours sur une construction qui n'a aucun rapport avec la vérité. Parce que tu es toujours dans une peur de lâcher l'escalier d'avant pour ne pas monter ou pour ne pas descendre plus exactement. Parce que pour moi en réalité, il n'y a jamais de montée. Le judaïsme n'est pas dans la montée. Il est dans la descente de l'infini vers ce fini. Et d'ailleurs, tous les kabbalistes ne font jamais de kavanot au niveau de montée, mais ils accompagnent les lumières dans leur descente dans ce monde. C'est-à-dire que si on devait donner un sens au judaïsme, c'est toujours du haut vers le bas. Monter vers Dieu, c'est de l'hérésie. Ça veut dire que j'ai réussi avec mon petit cerveau à le scléroser, à le rapetisser et à dire, voilà, Dieu est là. Je ne peux pas monter, donc je le laisse me traverser. Donc le messianisme, c'est une ouverture de soi, une écoute, une annulation. J'allais dire, c'est pourri. Ad de loyada. Tant que tu n'es pas capable de lâcher prise ton cerveau rationnel, tu ne peux pas appréhender un cerveau infini, béni soit-il, qui va venir en réalité. Et donc c'est ça la première faute initiale. Quand Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout simplement parce qu'il est rentré à l'université avant de rentrer à la yeshiva. S'il avait goûté de l'arbre de la vie, il aurait dû manger après l'arbre de la connaissance et il ne serait jamais mort.
Excusez-moi, je prolonge encore un petit peu en essayant de continuer mon idée qui est quand même celle de savoir, de parler d'une destruction, des valeurs générales, etc. C'est pour ça que je vous demandais si c'était partout. Ici, en Israël, est-ce que quelque chose de différent se produit ?
Tout à fait, nous sommes les porteurs de ce message. Donc, Mitzion Tetzetora, Udvar Hashem Yerushalayim. C'est le peuple d'Israël qui est détenteur des clés du temps, de l'espace et des identités. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais les dernières identités du monde vont se retrouver en Israël.
Ça veut dire ?
Les derniers Français de l'histoire vont être ici. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Ça veut dire qu'en réalité, la France est en train de perdre son identité. Je donne juste un exemple. Ça veut dire que les derniers Espagnols vont être ici. L'Espagne ne va plus être ce qu'elle était. Quand vous rentrez en France aujourd'hui, vous ne pouvez même plus retrouver la France que vous avez connue. C'est-à-dire que vous êtes les derniers Français, d'ailleurs, qui parlaient encore dans un langage français. Parce que quand je vais en France maintenant, je ne comprends plus rien. Quand je dis « Mohamed, la Mohamed de c'est fini. Ça veut dire qu'en réalité, on va former ici
un groupement, j'allais dire un musée mondial, de tous les rescapés de l'humanité tout entière.
C'est pas seulement un musée quand même.
Non. C'était juste pour amuser.
Alors, grâce à lui, j'essaie de progresser justement pour arriver un peu, malgré tout, à ce qu'on peut dire de ce qui se passe aujourd'hui concrètement en Israël. Quelle est votre opinion en rapport évidemment avec notre sujet?
Bon, il faut être très précis, je pense, dans ce genre de débat. Il y a plusieurs dimensions. Il y a de la France qui avait une question extraordinaire. Il disait qu'il était en famille, il n'y a que les flouts, tout le monde utilise aujourd'hui les mines à faire un tabou, à qui a été donnée la prophétie aux fouilles aux enfants. Et qu'il fallait que ce soit les non-religieux qui créent l'État d'Israël, parce que les religieux avaient des esprits, donc ils ne pouvaient pas voir un émoi, et que donc là, c'est les maboules, les pas religieux, qui comme des fous, qui ont eu l'esprit saint de conseil à l'Israël. Donc c'est une très bête. Priez un coup. Mais je pense qu'il faut différencier, là il faut être un peu sérieux, sur deux ou trois choses. Tout le monde aujourd'hui, même dans les médias, à part de une toute petite minorité, est sioniste au sens que le retour des règles qui traitent des peuples juifs est une merveille messianique.
Je m'en vais.
C'était juste là.
Ça veut dire que tout le monde est d'accord aujourd'hui, à moi, à part les gens, la preuve c'est que les deux eux-mêmes, les grands d'Israël, depuis le Razoni jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Raphaël Kenevski, dans mon orthodoxe, participent à la vie politique israélienne, etc. Donc tout le monde est d'accord sur un point, à part, je vous dis, on va les nommer, sur les Karsars ou les Safmars, ou autres, qui sont eux anti mouvement même de venir en Israël, et c'est pas du n'importe quoi, on n'est pas d'accord avec eux, ils ont une pensée derrière, on pourrait en donner un troisième élément pour discuter avec lui. Mais, on va dire qu'ils sont probablement minoritaires, hein, ils représentent 2 à 3% du monde orthodoxe. 95% du monde orthodoxe considère aujourd'hui, c'est pas dit ou pas dit, mais c'est en réalité c'est comme ça, que le fait que le peuple du retour en Israël, c'est une évidemment une providence messianique juive, divine, évidemment. Deux, que les signes messianiques apparaissent de façon évidente, c'est un vote pour pas le voir. Le fait que l'affaire, c'est un vote, c'est-à-dire qu'il est très fertile, pendant 2000 ans, il est resté en caillou. Et que dès qu'on est arrivé, c'est devenu, on exporte des produits agricoles en tout ça, c'est incroyable. Et surtout, on n'a jamais vu un développement de la Torah aussi extraordinaire qu'aujourd'hui, peut-être le plus grand développement qui a jamais eu lieu, peut-être, depuis les chrétiens ou Amélère, ou dans les gâteaux, il y a un développement extraordinaire. Ces signes ne mentent pas, il faut être aveugle et idiot pour pas voir qu'on est dans une époque messianique. Donc le fait même de retourner sur la terre d'Israël, le fait même qu'il y a fait une règle hypocrite qui retourne avec sa terre, et surtout que ce retour produit des effets métaphysiques et spirituels, c'est une évidence. Et comme je le redis, c'est accepté aujourd'hui par les plus grands en Chichiba, hyper orthodoxe, et on n'a pas été dans la liste, mais c'est parti de ça. Je vais venir à la plus grande grande chez Chichiba, de Débrac ou de Jérusalem. Là où par contre, il y a peut-être une différence fondamentale, elle est très importante. Et on va essayer de préciser pour que je comprenne le débat vraiment. C'est sur une notion que Rav Kook, dans sa grande sagesse, parce que tout le monde sait que Rav Kook, même les plus anciens sionistes reconnaissent en Rav Kook un gadol. Ça aussi, c'est très important de préciser. C'est un des grands d'Israël à la même hauteur que le Chazon Ish. Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un qui était très en ce moment, j'ai fait une carte pilière, et il m'a dit, non, c'est le Rav Kook était aussi grand que les grands. Il était contre tout le monde, mais en fait, il y avait un point très important. Il y a deux points, on l'a dit. Et là, on va pas être d'accord. Mais est-ce que ce retour doit, l'impact spirituel, doit nous faire changer d'identité, comme Manitou, Mme Vachelot disait, du juif à l'hébreu? Ça veut dire est-ce qu'on est capable, nous, avec les kélim, les instruments spirituels qu'on a aujourd'hui, de créer une nouvelle identité juive qui va dépasser l'identité juive de l'exil pour créer une nouvelle identité qui s'appelle l'hébreu et qu'on va retourner à une identité nouvelle qui va être lié à la terre, lié aux politiques, lié à la gestion du pays, et qui va donc s'affranchir de l'identité galactique du peuple juif. Là, nous avons un problème avec ça. Pourquoi? Parce que nous considérons que l'identité juive de Galut, ça veut dire l'identité familique, l'identité yéchiviste, pour dire les choses, le monde de Yeshiva, le monde de l'Égypte. le monde même de l'habillement orthodoxe, etc., est garant d'une identité, d'authenticité judaïque qui se dédie, qui se perd, dès qu'on essaie cette tentative de devenir hébreu, qui, à nos yeux, est plutôt, au contraire, une galoute dans la mesure où on va confondre l'élection d'Israël avec du nationalisme, par exemple. On va, à un moment donné, avoir des discours, et certains, même hommes politiques et sionistes religieux, ont des discours, à mon sens, proches du fascisme, proche du nationalisme, proche qui est vraiment une aussi trompeur et aussi destructeur d'un point de vue historique que la gauche qui veut se débarrasser de ce que fait le judaïsme, etc. Et donc il y a une finesse juive qu'il faut savoir garder, et je ne suis pas forcément contre l'idée. Allemagne, l'idée est formidable, que si on pouvait passer véritablement du juif à l'hébreu, et que l'hébreu authentique de David Amelé revenait sur terre, magnifique, on s'y touchait, mais on pense que c'est une erreur. Le français, ça peut se passer par les canaux nationalistes, le canal, la réduction du mécanisme au nationalisme est pour moi une grave erreur. Une très grave erreur, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on se trompe, on banalise complètement l'exception du pays. Le premier Rachid, il dit au début, on aurait dû commencer la Torah à Rosh Chodesh. C'est incroyable, ça. Ça voulait faire l'économie de toutes, de tout le Bereshit et de tout le milieu de Shvot. Pourquoi? Parce que nous, on est le peuple de Mitzvot. On n'a rien à faire avec la terre. Ah, les Dieux, vous voulez en dire aux nations qu'on n'est pas des voleurs quand on traite à Israël? Alors, c'est une histoire que Dieu a faite. Comment Dieu l'a donné? Qu'est-ce que dit Rachid? Il dit quelque chose de fondamental. Il dit, c'est l'Elohim. Avant tout, c'est des peuples qui sont de la terre. Un français, alors ça, c'est un français qui existe, vous avez raison. Mais non, 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 le français originel, il est français, la terre, italien, il est... Et après, il crée la spiritualité, mais avant tout, il appartient à la terre. Le peuple juif, c'est comme ça. Le peuple juif, il naît en Égypte. Il rentre dans la Torah, dans le Sinaï, dans le désert, et après il rentre en Israël. Ça veut dire que je l'égoline, l'évidence, c'est le nationalisme, l'appartenance à un terroir. Le chidouche, la nouveauté, c'est de recevoir une spiritualité. Le juif, c'est l'inversement. Ses racines sont au ciel. C'est son évidence, c'est le monde de la révélation, le monde de Dieu. Je lui dis, oui, mais je veux pas que tu sois un peuple de prêtre. Je veux pas que tu restes dans le Sinaï. Je veux pas que tu sois un peuple de prêtre. Je veux que cette spiritualité s'incarne dans le réel et qui va le conquérir Israël et qui va le magnifier et tu vas dire les Mitzvot en Israël. Et c'est magnifique. Mais ça veut dire, et je serai très attention à ça, qu'on ne peut pas habiter la terre d'Israël comme les Goïs habitent l'Anglais. J'avais eu cette discussion une fois avec Raphaël. Ça s'appelle aussi, oui, ça s'appelle le directeur d'un séminaire en Sud. Oui, mais il m'avait dit, moi, je vais être, je suis israélien, je suis patriote comme un français, parce que je pense que c'est une erreur. C'est là, c'est pour ça. Donc, je pense qu'il faut absolument, être capable de redéfinir la même façon que vous avez un rapport à la nourriture qui est différent, vous avez un rapport au temps qui est différent, vous avez un rapport au lieu, à la terre d'Israël qui est différent. Et si on reproduit des postures nationalistes, patriotiques, comme Elohim croit par rapport à la terre, on va droit dans le mur. Parce que le peuple d'Israël n'a pas d'exception. Et même dans son rapport à la terre d'Israël, il a un rapport exceptionnel, différent, radicalement différent. Ce qui veut dire qu'il met avant tout la terre d'Israël comme le lieu où peut s'épanouir, comme le Rambam dit, que les mitzvot ne s'épanouissent véritablement, absolument, comme les restes d'Israël. Et que tout ce qu'on fait en route de la reste n'est qu'une, que pour en garder, comme une sorte d'éducation. Mais ça veut dire que c'est avant tout le lieu d'une apparition spirituelle. Si on est dans un rapport patriotique nationaliste avec Israël, on trahit le projet même de l'avenir d'Israël. Et c'est fait sur ce point-là que les orthodoxes ne sont pas d'accord avec les sionistes religieux. Voilà. Je vais utiliser votre point.
Merci beaucoup. Ce point de vue, alors je pense que là, on est un peu au cœur de notre sujet. Je pense que j'ai plus le micro, mais c'est pas grave, on m'entend. Et puis, j'ai pas, c'est pour ma part, vraiment. Donc, Rabbe Larouche, là-dessus, comment vous réagissez?
C'est vrai qu'au niveau du dévoilement, on a l'impression, justement, qu'on sort d'Égypte, qui est la matrice, on est tous d'accord, pour recevoir la Torah. Mais en réalité, quand on voit les 5 points de la sortie d'Égypte, de Rosetti, Zehitzalti, Zegaalti, Zelatarki, Zehevesi et Trenelabnofen, en réalité, on voit se réaliser une projection de ce que Dieu a déjà demandé à Abraham. C'est quand même extraordinaire qu'à la première rencontre entre l'infini et l'homme, on va dire,
La seule chose que Dieu trouve à dire à Abraham, c'est « Lech lecha el ha'aret asher areka »« Ve'e'etcha l'goy gadol »« Ve'nivrechou becha kol mishpechot ha'adama » Autrement dit, je ne te demande pas d'être religieux là où tu l'es déjà. Je te demande d'aller fonder une nation. C'est différent. Ça veut dire que le judaïsme n'est pas une religion au niveau de l'individu. Il est obligé de dévoiler quelque chose de très profond qui est en lui, c'est-à-dire la notion de Ham, la notion de peuple. Et tant qu'il n'y a pas de peuple, en réalité, l'infini, je vais dire quelque chose de grave, ne peut pas se dévoiler parce qu'il a créé lui-même cette base de passé. Ham zu yatsar tili. Ce ne sont pas des juifs au niveau individuel.
Mais en fait, ça fait différence.
Eh bien, tout simplement parce que la terre...
Non, mais du nationalisme dont on parlait de...
Non, je suis entièrement d'accord. Quand le nationalisme est déconnecté des valeurs de l'infini, je suis entièrement d'accord, il n'y a même pas de différence entre nous. Je suis ici pour pratiquer les mitzvot de l'infini, mais en tant que nation sur ma terre, c'est tout, je ne dis pas le contraire. Je considère que la terre d'Israël n'est pas encore une terre dans le monde. C'est une terre spéciale, elle a des secrets. Eretz Israël est inéna d'abord chitsoni. C'est le début même du Rakou. C'est-à-dire, ne prends pas ça juste comme un petit moyen pour regrouper des juifs. Il y a ici quelque chose d'exceptionnel. C'est une terre qui en réalité, shirotsala asot retson kona. La terre elle-même, intrinsèquement, c'est une terre qui désire, d'ailleurs le mot « Eretz » veut dire « Rotsé ». Elle désire faire. Quand je suis sur ma terre, bien entendu que bafouer ce degré de l'infini qui se colle au fini, et que je ne joue plus ce rôle-là, « Chas v'chalila » bien sûr, on est tous d'accord que ce n'est pas du tout le point. Bien sûr qu'il y a un danger. Bien sûr qu'il y a un danger si le nationalisme en réalité se déconnecte des valeurs de l'infini. Bien entendu qu'il y a un danger. Et c'est pour ça que je me bats à aller donner des cours à droite et à gauche dans tout le pays et sur Internet et à droite et à gauche et même en France pour faire des séminaires. Parce que justement, il faut comprendre cette valeur. Il faut comprendre la valeur de cette terre. Quelle est la différence entre Eretz Mitzrayim et Eretz Israël? Eretz Mitzrayim, c'est notre maman, c'est notre matrice. On est né en Égypte. C'est bizarre, mais on est né en Égypte. Alors qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Eh bien, ça ne peut pas être ma maman. Puisque ma maman, c'est l'Égypte. Donc, Eretz Israël, c'est mon épouse. Et d'ailleurs, la terminologie, la sémantique est extraordinaire. Qui tavou el haaretz, il y a une lachon bi'a. Quand je viens en terre d'Israël, c'est presque une relation intime entre le peuple et la terre qui va féconder, qui va donner ses fruits. Qu'il n'y a pas de fin des temps aussi clair que la terre donne ses fruits. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël est en réalité mon épouse. Et si je suis toute la journée à vouloir comprendre que l'essentiel c'est ma spiritualité, je peux rester à Paris. Auquel cas je deviens en réalité, je rentre dans un complexe de vie, où je n'ai pas quitté maman. Alors que lorsque je viens en terre d'Israël, je retrouve ma femme. Et chaque instant avec mon épouse, c'est un choix renouvelé de ne pas divorcer.
Et rédemption que l'enfant est rédempteur d'Israël. Le fait d'avoir fait la faute de Méraglite a cassé cette dynamique. Et on a mis des milliers d'années pour réparer cette dynamique. Parce que c'est comme ça qu'on avait une vérité sans bonheur, une vérité sans amour, une vérité sans réalité. Et c'est l'église, c'est ça la galoute. Et donc c'est évident, ça tombe sur mon cerveau, d'accord. J'allais parler d'un autre point. Le point, est-ce que dans la réalité aujourd'hui du monde, est-ce qu'on est capable aujourd'hui encore de complexionner une identité des deux? Je pense que non, pas encore. Et qu'il faut rester fidèle à l'identité juive qui est portée par l'univers d'abord. C'est un petit point où je pense que vous êtes d'accord aussi.
Je suis d'accord. J'ai vu le film de Chasse, par exemple. Le film des élections de Chasse. Il ne marche pas. Le film de Chasse. Si vous regardez l'arrière-plan du film de Chasse pour les élections, il y a des soldats d'Israël, il y a le drapeau d'Israël. Quelque chose d'incroyable qui n'était pas au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle exactement le même langage. Donc tout est en train de se... En réalité, on a fait un tri. Chacun de nous a fait un pas vers l'autre. Et on est en train de retrouver en fait une identité qui est pas moi seul et pas l'autre seul. Lui et moi. Nous sommes obligés, on nous a mis dans une petite boîte ici, débrouillez-vous, moi à Kadosh Baruch Hu, je ne me mêle pas. Vous êtes assez matures pour ne pas que je pénètre ce monde par des miracles. Et c'est pour ça que toute la Géoula, puisqu'on parle de messianisme, qui est en train de se réaliser aujourd'hui, c'est un messianisme qui va s'habiller dans les événements de l'histoire et non pas des miracles dévoilés comme c'était à la sortie d'Égypte. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne veut pas nous voir, parce que nous sommes matures, parce qu'il nous dit vous êtes assez capable de vous débrouiller tout seul, vous êtes grand.
On va dire pas aux membres de la Knesset aussi, mais blague à part, il y avait quand même une chose qui peut-être aussi est intéressante, ce que vous avez dit, qui peut-être vous différencie, c'est cette, le Rav Sadin parlait tout à l'heure de cette fidélité à la dimension juive et à la dimension de l'exil, qui finalement, même s'il y avait des communautés, évidemment, restait une manière individuelle d'avoir un accès et un rapport à la vérité. Et que vous insistez davantage sur ce qui se produit quand on est ici, c'est-à-dire que quelque chose d'autre...
Torah d'Israël et reste d'Israël sont les fondamentaux du rapport juif à tous. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas du tout le monopole des que ce soit fait l'héritage d'Israël. La question, c'est de savoir justement comment est-ce qu'on garde cette intégrité du peuple. Et là, il y a, effectivement, mais je pense que, et nous, et nous, et nous, c'est très bien que c'est intéressant qu'il y ait une approche. Ça permet de sécuriser l'acquis de la Torah qui avait en exil, et ça permet peut-être d'ouverture de nouvelles de Torah qui sont... Ça, moi, je ne le vois pas encore, mais à l'Allemagne, qu'on soit capable, un jour, peut-être, effectivement, que la pensée juive, qui je l'évoque beaucoup actuellement, et fait partie de cet éveil d'une Torah qui est...
Justement, rebondir sur ça, parce qu'en réalité, je pense que le point qui va changer les choses, c'est l'étude de la Kabbalah. L'étude de la Kabbalah qui jusqu'à maintenant était, je ne sais pas, réservée, avoir peur, peu importe, c'est l'étude de la Kabbalah qui va faire le lien entre toutes ces parties, parce qu'en réalité, la Kabbalah parle du dénominateur commun. Elle ne parle pas de lui ou de moi, elle parle de la Shekhina Benehem. Exactement comme le verbe de l'infini qui sortait d'entre les deux chérubins, pas dans l'espace seulement, j'allais dire dans la tension d'amour qui existe entre nous. Et ça, c'est la Torah de la Kabbalah, c'est la Torah du blanc qui se trouve entre les lettres. Et quand on va commencer cette Torah, et c'est déjà bien introduit, bien amorcé, bien c'est cette Torah-là qui en réalité s'appelle la Torah Teret Israël. Et c'est sur cette Torah que dit la Gemara, El Torah que Torah Teret Israël, parce que c'est une Torah qui prend en compte l'infini béni soit-il, mais habillé dans la matière et dans la réalité de ce monde.
On dit que, non, vous savez, quand on dit la Torah, Rabban dit un très beau texte qui dit que la Torah dans Chavarim est un feu noir sur un feu blanc, et que, en réalité, la Torah est une suite de lettres, que les mots, on pourrait dire, la Torah de milliers de façons, les combinaisons de lettres. Et que si deux lettres noires se touchent, ça rend pas sous le désaccord. Pourquoi est-ce que l'écriture cursive rend pas sous le désaccord? Pourquoi? On peut très bien le lire. C'est parce qu'on efface le blanc. Et le blanc, c'est l'infini. Le blanc, quand vous avez une page blanche devant vous, avant d'écrire une page blanche, je peux potentiellement écrire le plus beau poème du monde. Un plus beau poème que Rimbaud, et vous plus mauvais. Mais je peux, on ne peut pas dire non. Mathématiquement, logiquement, j'ai potentiellement la possibilité, or ça veut dire que le blanc, une histoire qui illustre parfaitement cela. Il y avait Rabbi Akiva, qui interprétait le Tzimtzum Shaharot, et Moshe Rabbeinu ne comprenait pas ce qu'il disait. Après, Dieu lui a dit, il dit, retourne-toi. C'est très bizarre, il dit, retourne-toi. Parce que, moi, ça prend une information personnelle. Au niveau de Dieu, l'histoire est déjà faite. Donc, retourne-toi. Là, c'est un futur, mais chez lui, tout est déjà fait. Donc, il lui dit, Et Moïse dit, au début, Moïse ne comprend pas ce que Dieu avait dit. Il devient faible, parce qu'il dit, ma Torah était pervertie, j'ai jamais dit ça. Et tout d'un coup, tout ce que Rabbi il dit, tout ce que j'ai dit, c'est à la Ramoshe Bitsinaï. Et là, il est content. Après, la Bible, tu aurais dû dire. Il aurait dû dire, mon père, j'avais dit ça, qu'est-ce qu'il raconte? Il comprend à ce moment-là, Rabbi Moshe Rabbeinu, que c'est plus tard, beaucoup plus tard, Lévinas, que le pouvoir dire excède de vouloir dire. Ça veut dire qu'il y a une vraie parole inspirée, une parole, et c'est ça celui de vérité qui nous unit tous, c'est parce que c'est d'amour dans le concept, c'est parce que c'est de vibration poétique infinie dans le concept, qui fait que chaque vérité, qu'elle est vérité, elle est infiniment plus riche que ce qu'elle exprime. Elle est infiniment plus riche que ce qu'elle exprime. Pietre disait d'Angers et l'écrivain qui met dans son livre que s'il a voulu y mettre, il avait bien raison. Ça veut dire que toute parole inspirée est une parole par définition qui est infiniment plus riche que l'objectif de ce qu'elle peut dire. Et donc, Moshe comprend cela. Moshe comprend cela. Et ça, c'est l'espace blanc entre les lettres, s'il est passé, on voit définitivement l'infini de la Torah, et ça rend donc une interprétation infiniment possible de la Torah. Et juste pour illustrer cette idée, il y a une histoire que j'adore, qui s'est passée à Sfax, il y a 400 ans, on parlait de la Kabbalah, au temps du Arizal. Et il y avait dans cette histoire, quand on connaît l'histoire, il y avait une fois un homme qui lit la Torah toute la journée, et qui n'avait rien à manger. Et donc sa femme, alors, ne pouvait plus, elle dit comme ça, la canne, je ne peux plus. Alors lui, il a dit, bon, je vais travailler. Quelqu'un a tout là, parce que votre femme n'a pas, il faut aller travailler. Donc je vais travailler, il va travailler, parce qu'il ne faut pas de boulot. Donc il revient, il continue, et puis il dit, j'ai trop faim. Il dit, la zaka, je ne peux pas faire, je ne peux pas. Donc il va à la synagogue, il ouvre la rue à côté, parce que c'est fait un juif qui a faim, qui n'a pas de travail pour ne pas faire la zaka, il a prié. Donc il ouvre la rue à côté, il dit, moi je peux étudier en jeûnant, pas de problème, j'adore étudier, je suis collé à toi, et je n'ai aucun problème. Mais ma femme, c'est un peu dur, renvoie-moi à manger. Et il s'en va. Il y a un autre bonhomme à ça, chacun son problème. Un gros libanais, il n'y avait pas eu un gros riche, mais ils n'ont pas d'enfants, chacun son problème. Alors la femme lui dit, j'aurais des enfants tous les jours, il prend la tête des enfants, je lui dis, mais je suis pas le bon Dieu, moi j'aime ma femme. Il a été des médecins, qu'est-ce que fait un Dieu qui a toutes les filles quand on entend? Il va prier, il va dans un endroit, il ouvre la rue à côté, c'est là, il entend, il prie pour Dieu, il dit, moi je suis heureux, je suis riche, ça va, il est belle, j'aime ma femme, les enfants se connaissent, mais ma femme a pris une maladie, envoie-moi un fils. Et quand il sort, il entend un enfant, qui dit, un rêveux, un rabe, qui enseigne un enfant, qui dit, les frères Matanou, celui qui offrait les pains de proposition au temple, c'était une ségoula, c'était une grande ségoula dans les mots, en français, Non, ça a amené, on va dire, c'était une phrase,
une clé.
Une clé, on va dire, une clé pour avoir des enfants. Parce qu'en arabe, vous savez que le bœuf, on se réveille, c'est une génésie, une génésie boutarde. En français, c'est pas boutarde, c'est boutarde. Mais comme les arabes, ils savent dire le P, alors, ils ne savent pas le P, ils le B. Donc, on dit boutarde. Voilà. Donc, il dit, banim, banim. Lechem apanim, banim. Donc, celui qui amène le lechem apanim, il a des banim. Oh, il entend ça, il fait un signe de Dieu. Non, sa femme, il dit, prépare-moi deux bons pains. Elle prépare deux chalot extraordinaires. Il rentre à la synagogue, il amène une double aronde à côté, il dit à Dieu, voilà, je t'ai apporté le lechem apanim, apporté les banim. Et il s'en va. La plus d'appuie, vient le... C'est naïf. Est-ce que Dieu va donner à manger? Il ouvre la rue. Ah! Il voit deux chalotes extraordinaires encore chaudes. Il les amène chez lui. Ah, le mal qu'un jour on fasse un étude intérieur comme ça. Des bras comme ça, ils font un maudit. Comme ça, ils mangent le pain. Ils sont rassasiés, ils sont contents. Reviens à leur riche, est-ce que Dieu accepte mon pain? Ils ouvrent. Ah! Le pain est disparu. Donc Dieu a pris le pain. Et après, le lendemain, il avait entendu pain. Il avait de la viande après la. Et les deux ne marchent pas dans ce sens. Là, les deux planent dans ce sens. L'un croit que Dieu lui prend son pain, et l'autre croit que Dieu lui donne du pain. La femme est tellement, elle a étudié son mari, l'autre elle est tellement sûre que Dieu lui prend son pain qu'elle tombe enceinte, ou c'est psychosomatique, ou c'est le mérite de la Zaka, j'en sais rien, d'accord. Et tout d'un coup, le rabbin, il pose la main. Le rabbin, c'est pas qu'un arrivant. Il se cache derrière la maison. Il est content que les deux, il vous prenez le bon Dieu pour un boulanger. Ça va pas la tête ? Oh là, les deux, ils repartent.
Il a tout cassé.
Le Arizal, par rapport à Kodesh, il a vu ça. Il a convoqué la veille, tu vas mourir ce soir. C'est une vraie histoire, toi. Tu vas mourir cette nuit. Et rien n'y fera. Parce que depuis la destruction du temple, il n'y avait pas de nachat droit, il n'y avait pas de plaisir à Dieu que l'Irol. C'est comme un cambal, comme un sacrifice qui était donné là. Et toi, t'as tout cassé. Il est mort. La question que j'ai eue, moi, c'est de dire que ce rabbin, il a raison, mais pas du tout dans la jeunesse. Une des raisons pour lesquelles, quand on touche le Sefer Torah, les gens deviennent impurs, parce qu'avec malade, on raconte, parce qu'avant, les gens mettaient du pain dans le Sefer Torah, la Kodesh, et venaient les rats, ils mangeaient le pain, ils mangeaient le Sefer Torah. Donc, ils ont dit, non, on ne veut pas jeûner. C'est comment, c'est le blanc et le noir. C'est l'amour et la vérité. Parce qu'il aurait dit, le rabbin, c'est comment il aura parlé. Si on utilise le noir, celui qui est que blanc, tout amour, il veut manger, il veut faire plaisir à son père ou son beau-père, il mange des crevettes avec lui, c'est nul. Mais celui qui est tout noir, noir que noir, halakha, qui utilise halakha pour casser la tête des gens, c'est affreux. Si toute la Torah, c'est cette symbiose, cette dynamique entre l'amour et la vérité. Si la Rav dit, c'est magnifique, Dieu te voit le pain et Dieu prend ton pain, c'est peut-être qu'on est sur la jarre parce que c'est encore mieux. Ça aurait été génial. Mais si tu prends halakha pour casser les gens, pour dénier l'amour, et bien tu tombes dans la perversion même de la Torah. Donc il faut faire que cette singularité qui nous unit, quand on va les unir, c'est qu'en vérité on veut tous la même chose. On veut que cette dynamique de la vérité, on veut tous que le Messie vienne, et on veut que dans la chaîne, que cette vérité, cet amour, soit dans une dynamique extraordinaire qui va vaincre toutes les critiques, toutes les négativités, et de bien dans la chair, de Miyamé, de Yamera, Amen, Kéné, Amen.
Merci vraiment beaucoup. Il y a quelques questions qu'on peut prendre. Je crois qu'effectivement, tous les efforts ont été vains. Et donc, un signe supplémentaire, je pense.
Il n'y en a pas de temps.
Il n'y en a pas, pas loin. Alors, attendez, je vais, après que vous vous levez, donc monsieur et madame après, et monsieur et Nicolas. Donc, levez-vous parce que ça change du doigt et par le sort.
Si j'ai compris votre propos, vous avez dit en certain moment qu'un nationalisme exacerbé peut amener à une certaine galoute.
Oui.
Ça voudrait dire que quelqu'un qui a fait sa lia, qui habite en Israël, pourrait lui se trouver dans une certaine galoute alors qu'il habite
ah oui.
en Israël.
Ah oui, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez expliquer ah oui, peut-être oui. que le Ravuel sera...
Oh non, je pense qu'on ne serait pas ici. Mais la galoute, c'est comment le Ravuel explique aussi. C'est un détachement, effectivement, de l'infini, du divin, et une trahison d'une vie qui est à côté de la vérité. Or, il faut y avoir une galoute comme ça, et il y a une galoute comme ça, il y a écrit qu'à la fin, que la prochaine fois que la chair vienne, il y aura au contraire une des plus grandes galoutes, qui sera une galoute faite par les juifs eux-mêmes, parce qu'on le voit, ça veut dire qu'on arrive dans les oreilles, il écrit que galoute éreindra, bon, je ne crois pas déjà, on va dire que la pièce, etc. Je ne sais pas du tout comment on dit ça, je suis chouillotte, mais il y a une idée comme ça. Éreindra, ce n'est pas des personnes, c'est un esprit. C'est un esprit qui, au cœur même du peuple d'Israël, trahisse la vocation d'Israël. J'avais un très grand rabbin qui disait, après Moshe Rabbeinu de Salle, qui disait, on peut avoir deux frères jumeaux, qui viennent de la même tipa, qui sont des vrais jumeaux, l'un peut être un rabbin, mais l'autre peut être un cadeau gélion. Donc c'est pas une question génétique, mais on a il y a dans le peuple d'Israël cette possibilité de frères et rabbin. C'est-à-dire qu'au cœur même du peuple juif, on peut avoir une force anti-juive. Dans le poids tous les jours. Donc, après, juste dire, moi, la galoute en Israël, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr reconduire en Israël un modèle de vie occidentale, par exemple, une identité qui veut faire fi, se débarrasser de la Torah, et que, enfin, on l'a vu historiquement, ça s'est beaucoup passé, beaucoup moins aujourd'hui, comme le dit le rabbin aujourd'hui, bon, ça a énormément bien évolué, mais au début de l'État d'Israël, il y avait vraiment, et il y aura quand la carotte de lui qu'il a vu, ça, lui, il a vu que ça devrait changer, parce qu'à l'époque, il fallait vraiment avoir du courage pour être sioniste, quand on était religieux comme rabbin. Parce qu'il y avait quand même le mouvement sioniste, c'était majoritairement non seulement laïque, mais anti-religieux au point où ils avaient, et c'était très à la mode de l'époque avec Rossetto, Staline et tout, de créer l'homme nouveau, on voulait créer le juif nouveau, et le juif nouveau c'était d'abandonner totalement la Torah pour créer un juif israélien nouveau, guerrier, agriculteur, qui coupe avec tout ce qui était de la Torah de la Galoute et avec la Torah tout court. Et donc, effectivement, ça, il faut qu'il y ait une Galoute en Israël, et clairement jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi ça. Et il peut y avoir effectivement aussi une vie au sens grand vivant que ça reste. Moi je pense aussi, c'est bien qu'il faut signer des plus grands usages de vivre en Israël, mais c'est pas forcément actuellement pour tout le monde, là aussi je pense qu'on peut nous faire d'accord, mais c'est ces petits points-là où il y a des... Mais on est dit sur les fondamentaux, on est d'accord, mais il peut y avoir de la galoute en Israël, c'est évident.
Ok, merci. Si vous faites des questions, on va passer après la deuxième partie.
Qu'en est-il de l'impact sur les autres nations avec cette dimension mécanique du côté juif?
Ça, c'est un des grands secrets. On a écrit un livre ensemble avec Antoine, qui va peut-être faire un long épilier, on ne sait pas. Mais moi, pour moi, c'est un grand mystère. Comment se fait-il que le peuple juif a rattrapé toute l'histoire de l'humanité de façon absolument... Une fois, j'ai fait un scandale à Genève, pour ça j'ai pas voulu, hein, mais j'avais dit, c'est pas des juifs, mais j'aurais envie de m'éveiller. Mais j'avais dit, écoutez, si vous enlevez de l'histoire de l'humanité les Chinois, dans l'État, on est aujourd'hui, c'est plus ça, mais 6 mois, dans l'État, il n'y a plus de spaghettis, il y a plus d'argano, et encore, c'est pas sûr, mais ça ne sera pas un ébranlement de l'identité humaine, de l'humanité. Ça serait pas un bien ennemi. Vous en pouvez le peuple juif de l'humanité, il ne reste plus rien, faut dire, il ne reste plus rien. Il n'y a plus le christianisme, il n'y a plus l'islam, et même les religions d'Extrême-Orient viennent d'Abraham, puisque Abraham a envoyé ce qu'il dit. Le christianisme, l'islam, c'est scientifique, tout le monde le sait, c'est historique, c'est académique, tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'islam, ni de, c'est déjà deux tiers de l'humanité. Mais même les religions d'Extrême-Orient, c'est Abraham qui a envoyé ce qu'il dit, tout le monde sait qu'il a envoyé la spiritualité négative, qui est à l'origine du Brahmanisme, Abraham, avec Sarai, qui est Sarai, et on sait très bien, il y a des textes qui nous disent très bien que toute l'origine, le bouddhisme est beaucoup plus tardiste, mais qui vient du Brahmanisme, et c'est dans un que tout vient de toi. Or, c'est extraordinaire que ce peuple qui a donné leur Dieu, leur religion au peuple, toutes les nations, au lieu de nous bénir, et nous dire merci, au moins nous dire merci, nous a dit. C'est un mystère extraordinaire. Oui. De façon historique, de gars, ils ne nous ont pas fait la vie facile. Ni en Espagne, d'ailleurs, pas aussi dans le monde musulman, il y a eu beaucoup de tourments, etc. Et ça veut dire qu'effectivement, et c'est ça qui est extraordinaire, il n'y a pas plus des pâtres des victimes. Il ne fait pas ce qu'on était ce soir. Et par le fait d'être fidèle à la vérité, comme l'a dit Laura, d'être cet ancêtre qui capte la vérité divine, il transfigure le monde. Alors que les autres nations essaient toujours d'imposer leur modèle idéologique et elles disparaissent avec l'histoire. Quand Abraham Avinu était seul, contre toute l'humanité, que Nimrod avait un plan diabolique, il disait, nous sommes nous les humains, mais si on est tous des êtres gelots, on va gagner Dieu à son propre jeu, parce que Dieu a créé les gentils et les méchants, tant qu'il y a des gentils et des méchants, il va donner des bonbons aux gentils, il frappe les méchants, on va tous être méchants, et on va bloquer Dieu dans son propre jeu. Et là, il y a un qui rentre à la combine. Ezer, c'est ça, comme le mot hébreu, il est seul. Abraham est seul contre toute l'humanité. Si on avait été à l'époque d'Abraham, sur qui vous auriez mis des économies? Sur Nimrod qui a la banque avec lui, qui a l'ONU avec lui, qui a toutes les armées avec lui, qui a toutes les assemblées. Et vous avez Abraham seul qui est enfin stérile, qui n'a pas d'enfant, qui est stérile à un seul âme. Sur qui on aurait mis? Sur tout le monde, pas sur jamais mis ça. Or, 4000 ans plus tard, qu'est-ce qui reste d'Abraham? Tout. Qu'est-ce qui reste de nation? Rien. De Nimrod, rien. Parce qu'en réalité, il y a deux formes d'universel. Il y a l'universel en extension qui a l'air très fort à l'intérieur de l'économie et de la politique, mais qui en réalité très faible. Et une vérité en intensité qui pourtant dit tout le futur de l'humanité. Le peuple juif, c'est ça. Le peuple juif a une constante influence sur les nations, constante, mais elle n'est pas directe. Elle est indirecte.
Merci. Rassalut, vous pourrez rester un peu la deuxième partie après, donc je vais aux gens qui pourraient poser des questions.
Une autre chose.
Voilà. Alors, oui, notre autre.
Premièrement, remercier le débat et celui qui l'a organisé, vraiment, c'était très intéressant. Vous ajoutez deux petites remarques. La première, c'est que nous avons ici une bibliothèque, je parle au nom du groupe de nombreux. Et c'est déjà de près, et il y a des livres pour étudier, entre autres, le sujet du messianisme. Entre autres, un très bon livre que je peux vous conseiller, parce que le messianisme juif, selon le Maharal de Prague, écrit par le professeur de Nouveau, Avi Moré, qui a étudié la question et a approfondi. Deuxième remarque, à propos de Manitou. Parce que Manitou n'a pas seulement fait la nous n'a pas seulement enseigné qu'on était hébreu, on est devenu juif et on redevient hébreu. Et il a ajouté une phrase importante là-dessus, c'est quand les hébreux sont devenus juifs, il était interdit qu'ils oubliaient, ils ne devaient pas oublier qu'ils étaient hébreux. C'est-à-dire quand les juifs étaient en galoute, ils ne devaient pas oublier d'où ils venaient. La même chose se passe lorsque les juifs redeviennent hébreux. Ils ne doivent pas oublier qu'ils étaient juifs. C'est-à-dire ce judaïsme-là, du Talmud Bavli et de Shulchan Aruch et tous les notaires Kélim de Shulchan Aruch, on ne peut pas, quand on passe de la galoute en Eretz Israël, oublier et recommencer à zéro, c'est pas possible, c'est impossible. Et donc, en fait, Manitou avait raison si on le prend dans son ensemble, et malgré, ou bon gré, consciemment ou inconsciemment, on change d'identité. qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, la réalité revient à la vérité et nous sommes en fait. Et moi, personnellement, j'ai étudié à Ekleba chez le Rav Falkin, et j'ai entendu le Rav Toledano au Rati, et ce que vous dites, quand j'entends le Rav Falkin aujourd'hui, c'est une autre musique, c'est pas la même chose. Et quand on entend le Rav Kook, qui a anticipé toutes ces choses-là, c'est vraiment une chose extraordinaire, et on ne peut pas être conscient que le monde juif change, et change dans sa profondeur, dans son identité véritablement. Encore une petite remarque, parce qu'il y a quelque chose qui me manquait là dans le débat, c'est le Rambam, et le Rabbi Moshe Ben Maimon, qui est Maimonide, qui nous dit une chose très importante à mon avis à propos du messianisme. Il dit l'Oreza Erie Hashiye. On ne saura pas qu'est-ce que c'est véritablement le messianisme tant qu'on n'aura pas véritablement vécu. Et ça, cette phrase-là, elle est extraordinaire parce qu'elle nous oblige d'être dans une tension constante. Si on a vu cette phrase-là à la Emouna de Biyat HaMashiach, on croit que ça va venir, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors on croit à quelque chose, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors ça nous oblige personnellement d'ouvrir les yeux sans arrêt. C'est peut-être celui-là, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être celui-là, sans arrêt dans une tension messianiste. Et lorsque on entend ceux qui nous parlaient aujourd'hui, on voit que cette tension-là, elle est vibrante, elle vit, et c'est peut-être à preuve que, en tout cas, c'est ça le Mashiach.
Retenez peut-être juste un mot de parole au Rabbi, parce que je me souviens d'une interview qu'on avait faite sur Akadem où vous parliez de ce rire messianique, de ce renversement qui se produit. Oui. C'est intéressant d'ajouter cette notion.
Oui, juste en deux secondes, c'est que on dit justement, effectivement, il y a quand même ce qui crie, ce que vous avez dit, quelque chose de nouveau. On dit que le Mashiach est assis à Rome. Il est assis à Rome et le Maharal de France, il prend tout à Rome. Puisque Rome, c'est l'empire du rien. Ce qu'il faut, effectivement, un peu comme Benavent l'a dit, il faut arriver, c'est du néant que va naître le Messie. C'est-à-dire qu'une sorte de... Or, une blague, qu'est-ce que c'est une bonne blague? Une blague, c'est toujours, on raconte une histoire, et tout le monde pense que l'histoire va se finir comme ça, et hop, elle finit exactement à l'envers. À l'envers, tout le monde rigole. C'est ça, et c'est pour ça qu'on dit que le Messie, c'est une blague cosmique. C'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire que le monde, il y a la marge de l'histoire, qui paraît, nous paraît, qui le monde, qui va comme il va, qui va aboutir à qui va aboutir. Et tout d'un coup, il va y avoir un retournement extraordinaire, incompréhensible pour notre conscience aujourd'hui, et qui avait, et c'est une sorte de blague, c'est un mécanisme même de la blague, de la joie et de la sutra. Et c'est très important parce que c'est tellement juif, ça, d'être fidèle jusqu'à la mort et au-delà même, à Dieu qu'on n'a pas le droit de voir, être fidèle à une espérance spéciale jusqu'à la mort, alors on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est quelque chose de formidablement juif, et que j'aime beaucoup parce que ça montre comment le juif participe à quelque chose d'au-delà de la conscience, d'au-delà de toute maîtrise. C'est ça être juif, c'est d'avoir confiance, avoir une sorte de préscience de quelque chose qui nous échappe complètement.
Voilà, alors avant la phrase,
Juste rebondir sur la notion de rire, puisque nous sommes à la veille de Pourim, et que notre premier, entre guillemets, homme d'Israël s'appelait Yitzhak, qui est sur la base du rire même, puisque Yitzhak c'est il rira, qui rira bien, qui rira le dernier. Et en rebondissant sur ce que vient de dire le Rav Sadin, c'est que en hébreu, c'est tellement riche que le mot tzrok, c'est sortir des lois. C'est tzrok. C'est-à-dire que tu attends quelque chose, et à la fin, justement, ça change complètement, ça sort de la loi, le tzrok, et c'est ce qui fait rire. Ça veut dire que le judaïsme est en réalité une forme de sortie des lois que tout le monde a inscrit pour justement dépasser ces lois et engendrer le rire.
Voilà. Et ça, c'est tout très frais. C'est frais, c'est celui qui vit la fin des temps.
J'ai demandé à Madame Zéla, on va poser une question, après vraiment la dernière, après on marque 5 minutes de pause. Je vous en prie, donnez-vous s'il vous plaît, on vous voit bien.
Je suis Saint-Michel la première fois, il y a 15 ans, et les profs qui étaient à l'institut, les profs qui étaient à l'institut,